Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission de lecture biblique. L'objectif est de lire toute la Bible en l'espace de 6 mois dans l'ordre chronologique des événements.
Cette émission vous est proposée par l'Église Adventiste du 7e jour d'Évry.
Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Évry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Restez jusqu'à la fin car nous vous proposerons une méditation concernant le texte du jour. N'hésitez pas non plus à mettre toutes vos questions en commentaire. Aujourd'hui, nous commencerons par lire le livre de 2 Samuel du chapitre 1 à 4. Ensuite, nous lirons les psaumes 6, 8 à 10, 14, 16, 19 et 21. 2 Samuel, chapitre 1er. Après la mort de Saül, David, qui avait battu les Amalécites, était depuis 2 jours revenu à Tsiklag. Le 3e jour, un homme arriva du camp de Saül, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il fut en présence de David, il se jeta par terre et se prosterna. David lui dit « D'où viens-tu ? » Il lui répondit « Je me suis sauvé du camp d'Israël. » David lui dit « Que s'est-il passé ? Dis-moi donc !» Et il répondit « Le peuple s'est enfui du champ de bataille et un grand nombre d'hommes sont tombés et ont péri. Saül même et Jonathan son fils sont morts. » David dit au jeune homme qui lui apportait ces nouvelles « Comment sais-tu que Saül et Jonathan, son fils, sont morts ?» Et le jeune homme qui lui apportait ces nouvelles répondit « Je me trouvais sur la montagne de Gilboa, et voici, Saül s'appuyait sur sa lance, et voici les chars et les cavaliers étaient près de l'atteindre. S'étant retourné, il m'aperçut et m'appela. Je dis « Me voici !» Et il me dit « Qui es-tu ?» Je lui répondis « Je suis Amalécite. » Et il dit « Approche donc et donne-moi la mort, car je suis pris de vertige, quoique encore plein de vie. » Je m'approchai de lui et je lui donnai la mort, sachant bien qu'il ne survivrait pas à cette défaite. J'ai enlevé le diadème qui était sur sa tête et le bracelet qu'il avait au bras, et je les apporte ici à mon seigneur. David saisit ses vêtements et les déchira, et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Ils furent dans le deuil, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir à cause de Saül, de Jonathan son fils, du peuple de l'Éternel et de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. David dit au jeune homme qui lui avait apporté ces nouvelles « D'où es-tu ? » Et il répondit « Je suis le fils d'un étranger, d'un Amalécite. » David lui dit « Comment n'as-tu pas craint de porter la main sur loin de l'Éternel et de lui donner la mort ?» Et David appela l'un de ses gens et dit « Approche et tue-le !» Cet homme frappa l'Amalécite qui mourut. Et David lui dit « Que ton sang retombe sur ta tête, car ta bouche a déposé contre toi, puisque tu as dit « J'ai donné la mort à loin de l'Éternel. » Voici le cantique funèbre que David composa sur Saül et sur Jonathan son fils. et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. C'est le cantique de l'arc. Il est écrit dans le livre du Juste. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment des héros sont-ils tombés? Ne l'annoncez point dans Gath, n'en publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Montagne de Gilboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée, ni pluie, ni champ qui donne des prémices pour les offrandes. Car là ont été jetés les boucliers des héros, le bouclier de Saül, l'huile a cessé de les oindre. Devant le sang des blessés, devant la graisse des plus vaillants, l'arc de Jonathan n'a jamais reculé et l'épée de Saül ne retournait point à vide. Saül et Jonathan, aimables et chéris pendant leur vie, n'ont point été séparés dans leur mort. Ils étaient plus légers que les aigles, ils étaient plus forts que les lions. Filles d'Israël, pleurez sur Saül, qui vous revêtait magnifiquement de cramoisi, qui mettait des ornements d'or sur vos habits. Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il succombé sur tes collines? Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour des femmes. Comment des héros sont-ils tombés? Comment leurs armes se sont-elles perdues? 2 Samuel chapitre 2. Après cela, David consulta l'Éternel en disant « Monterai-je dans une des villes de Juda ?» L'Éternel lui répondit « Monte !» David dit « Où monterai-je ?» Et l'Éternel répondit « À Hébron !» David y monta avec ses deux femmes, Achinoam de Jisréel et Abigaïl de Carmel, femme de Nabal. David fit aussi monter les gens qui étaient auprès de lui, chacun avec sa maison, et ils habitèrent dans les villes d'Hébron. Les hommes de Juda vinrent et là, ils joignirent David pour roi sur la maison de Juda. On informa David que c'étaient les gens de Jabès en Galaad qui avaient enterré Saül. David envoya des messagers aux gens de Jabès en Galaad pour leur dire « Soyez bénis de l'Éternel, puisque vous avez ainsi montré de la bienveillance envers Saül, votre maître, et que vous l'avez enterré. Et maintenant, que l'Éternel use envers vous de bonté et de fidélité. Moi aussi, je vous ferai du bien, parce que vous avez agi de la sorte. » Que vos mains se fortifient et soyez de vaillants hommes, car votre maître Saül est mort, et c'est moi que la maison de Juda a oint pour roi sur elle. Cependant, Abner, fils de Ner, chef de l'armée de Saül, prit Ish-Bosheth, fils de Saül, et le fit passer à Mahanaïm. Il l'établit roi sur Galaad, sur les Guershuriens, sur Jisréel, sur Éphraïm, sur Benjamin, sur tout Israël. Ish-Bosheth, fils de Saül, était âgé de 40 ans lorsqu'il devint roi d'Israël et il régna 2 ans. Il n'eut que la maison de Juda qui resta attachée à David. Le temps pendant lequel David régna à Hébron sur la maison de Juda fut de 7 ans et 6 mois. Abner, fils de Ner, et les gens d'Ish-Bosheth, fils de Saül, sortirent de Mahanaïm pour marcher sur Gabaon. Joab, fils de Tseruja, et les gens de David se mirent aussi en marche. Ils se rencontrèrent près de l'étang de Gabaon et ils s'arrêtèrent, les uns en décas de l'étang et les autres au-delà. Abner dit à Joab, « Que ces jeunes gens se lèvent et qu'ils se battent devant nous. » Joab répondit, « Qu'ils se lèvent. » Ils se levèrent et s'avancèrent en nombre égal, 12 pour Benjamin et pour Ish-Bosheth, fils de Saül, et 12 des gens de David. Chacun, saisissant son adversaire par la tête, lui enfonça son épée dans le flanc, et ils tombèrent tous ensemble. Et l'on donna à ce lieu, qui est près de Gabaon, le nom de Helkath Hatsurim. Il y eut en ce jour un combat très rude, dans lequel Abner et les hommes d'Israël furent battus par les gens de David. Là se trouvaient les trois fils de Tseruja, Joab, Abishai et Azaël. Azaël avait les pieds légers comme une gazelle des champs. Il poursuivit Abner sans se détourner de lui pour aller à droite ou à gauche. Abner regarda derrière lui et dit « Est-ce toi, Azaël ?» Et il répondit « C'est moi. » Abner lui dit « Tire à droite ou à gauche, saisis-toi de l'un de ces jeunes gens et prends sa dépouille. » Mais Azaël ne voulut point se détourner de lui. Abner dit encore à Azaël « Détourne-toi de moi, pourquoi te frapperai-je et t'abattrai-je en terre ? Comment ensuite lèverai-je le visage devant ton frère Joab ?» Et Azaël refusa de se détourner. sur quoi Abner le frappa au ventre avec l'extrémité inférieure de sa lance et la lance sortit par derrière. Il tomba et mourut sur place. Tous ceux qui arrivaient au lieu où Hazaël était tombé mort s'y arrêtaient. Joab et Abishaï poursuivirent Abner et le soleil se couchait quand ils arrivèrent au coteau d'Ama qui est en face de Guihash sur le chemin du désert de Gabaon. Les fils de Benjamin se rallièrent à la suite d'Abner et formèrent un corps et ils s'arrêtèrent au sommet d'une colline. Abner appela Joab et dit « L'épée dévorera-t-elle toujours? Ne sais-tu pas qu'il y aura de l'amertume à la fin? Jusque à quand tarderas-tu à dire au peuple de ne plus poursuivre ses frères ?» Joab répondit « Dieu est vivant. Si tu n'eusses parlé, le peuple n'aurait pas cessé avant le matin de poursuivre ses frères. » Et Joab sonna de la trompette et tout le peuple s'arrêta. Ils ne poursuivirent plus Israël et ils ne continuèrent pas à se battre. Abner et ses gens marchèrent toute la nuit dans la plaine. Ils passèrent le Jourdain, traversèrent en entier le Bitron et arrivèrent à Manaïm. Joab revint de la poursuite d'Abner et rassembla tout le peuple. Il manquait 19 hommes des gens de David et Hazaël. Mais les gens de David avaient frappé à mort 360 hommes parmi ceux de Benjamin et d'Abner. Ils emportèrent Hazaël et l'enterrèrent dans le sépulcre de son père à Bethléem. Joab et ses gens marchèrent toute la nuit et le jour paraissait quand ils furent à Hébron. 2 Samuel chapitre 3. La guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. David devenait de plus en plus fort et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Il naquit à David des fils à Hébron. Son premier-né fut Amnon, d'Achinoam de Jizréel. Le second, Kileab, d'Abigaïl de Carmel, femme de Nabal. Le troisième, Absalom, fils de Maaka, fils de Talmaï, roi de Geshur. Le quatrième, Adonija, fils de Haggit. Le cinquième, Shephatia, fils d'Abital. Et le sixième, Jitréam, d'Egla, femme de David. Ce sont là ceux qui naquirent à David, à Hébron. Pendant la guerre entre la maison de Saül et la maison de David, Abner tint ferme pour la maison de Saül. Or, Saül avait eu une concubine nommée Ritzpa, fille d'Aja. Et Ishbosheth dit à Abner, « Pourquoi es-tu venu vers la concubine de mon père ?» Abner fut très irrité des paroles d'Ishbosheth et il répondit, « Suis-je une tête de chien qui tienne pour Juda ?» Je fais aujourd'hui preuve de bienveillance envers la maison de Saül, ton père, envers ses frères et ses amis. Je ne t'ai pas livré entre les mains de David et c'est aujourd'hui que tu me reproches une faute avec cette femme. Que Dieu traite Abner dans toute sa rigueur si je n'agis pas avec David selon ce que l'Éternel a juré à David, en disant qu'il ferait passer la royauté de la maison de Saül dans la sienne et qu'il établirait le trône de David sur Israël et sur Juda, depuis Dan jusqu'à Beersheba. » Ishbosheth n'osa pas répliquer un seul mot à Abner parce qu'il le craignait. Abner envoya des messagers à David pour lui dire de sa part, « À qui est le pays? Fais alliance avec moi et voici, ma main t'aidera pour tourner vers toi tout Israël. » Il répondit, « Bien, je ferai alliance avec toi, mais je te demande une chose. » C'est que tu ne vois point ma face, à moins que tu n'amènes d'abord Michal, fille de Saül, en venant auprès de moi. » Et David envoya des messagers à Ishbosheth, fils de Saül, pour lui dire, « Donne-moi ma femme, Michal, que j'ai fiancée pour 100 prépuces de Philistins. » Ishbosheth la fit prendre chez son mari Paltiel, fils de Laïch. Et son mari la suivit en pleurant jusqu'à Bashurim. Alors Abner lui dit, « Va, retourne-t'en. » Et il s'en retourna. Abner eut un entretien avec les anciens d'Israël et leur dit, « Vous désiriez autrefois d'avoir David pour roi. Établissez-le maintenant, car l'Éternel a dit de lui, « C'est par David, mon serviteur, que je délivrerai mon peuple d'Israël de la main des Philistins et de la main de tous ses ennemis. » Abner parla aussi à Benjamin et il alla rapporter aux oreilles de David à Hébron ce qu'avait résolu Israël et toute la maison de Benjamin. Il arriva auprès de David à Hébron, accompagné de 20 hommes, et David fit un festin à Abner et à ceux qui étaient avec lui. Abner dit à David, « Je me lèverai et je partirai pour rassembler tout Israël vers mon seigneur le roi. Ils feront alliance avec toi et tu régneras entièrement selon ton désir. » David renvoya Abner qui s'en alla en paix. Voici, Joab et les gens de David revinrent d'une excursion et amenèrent avec eux un grand butin. Abner n'était plus auprès de David à Hébron, car David l'avait renvoyé et il s'en était allé en paix. Lorsque Joab et toute sa troupe arrivèrent, on fit à Joab ce rapport. Abner, fils de Ner, est venu auprès du roi qui l'a renvoyé et il s'en est allé en paix. Joab se rendit chez le roi et dit « Qu'as-tu fait ? Voici, Abner est venu vers toi. Pourquoi l'as-tu renvoyé et laissé partir ? Tu connais Abner, fils de Ner ? C'est pour te tromper qu'il est venu pour épier tes démarches et pour savoir tout ce que tu fais. » Et Joab, après avoir quitté David, envoya sur les traces d'Abner des messagers qui le ramenèrent depuis la citerne de Sira. David n'en savait rien. Lorsque Abner fut de retour à Hébron, Joab le tira à l'écart au milieu de la porte comme pour lui parler en secret. Et là, il le frappa au ventre et le tua pour venger la mort d'Azaël, son frère. David l'apprit ensuite et il dit « Je suis à jamais innocent devant l'Éternel du sang d'Abner, fils de Ner, et mon royaume l'est aussi. » Que ce sang retombe sur Joab et sur toute la maison de son père. Qu'il y ait toujours quelqu'un dans la maison de Joab qui soit atteint d'un flux ou de la lèpre, ou qui s'appuie sur un bâton, ou qui tombe par l'épée, ou qui manque de pain. Ainsi Joab et Abishaï, son frère, tuèrent Abner parce qu'il avait donné la mort à Azaël, leur frère, à Gabaon dans la bataille. David dit à Joab et à tout le peuple qui était avec lui, « Déchirez vos vêtements, saignez-vous de sacs et pleurez devant Abner. » Et le roi David marcha derrière le cercueil. On enterra Abner à Hébron. Le roi éleva la voix et pleura sur le sépulcre d'Abner et tout le peuple pleura. Le roi fit une complainte sur Abner et dit « Abner, devait-il mourir comme meurt un criminel ? Tu n'avais ni les mains liées, ni les pieds dans les chaînes. Tu es tombé comme on tombe devant des méchants. » Et tout le peuple pleura de nouveau sur Abner. Tout le peuple s'approcha de David pour lui faire prendre quelque nourriture pendant qu'il était encore jour. Mais David jura en disant « Que Dieu me traite dans toute sa rigueur si je goûte du pain ou quoi que ce soit avant le coucher du soleil. » Cela fut connu et approuvé de tout le peuple qui trouva bon tout ce qu'avait fait le roi. Tout le peuple et tout Israël comprirent en ce jour que ce n'était pas par ordre du roi qu'Abner, fils de Ner, avait été tué. Le roi dit à ses serviteurs, « Ne savez-vous pas qu'un chef, qu'un grand homme est tombé aujourd'hui en Israël ? Je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale, et ces gens, les fils de Tserudja, sont trop puissants pour moi. Que l'Éternel rende selon sa méchanceté à celui qui fait le mal. » 2 Samuel, chapitre 4. Lorsque le fils de Saül apprit qu'Abner était mort à Hébron, ses mains restèrent sans force et tout Israël fut dans l'épouvante. Le fils de Saül avait deux chefs de bande, dont l'un s'appelait Baana et l'autre Récab. Ils étaient fils de Rimmon, de Béhéroth, d'entre les fils de Benjamin. Car Béhéroth était regardé comme faisant partie de Benjamin et les Béhérothiens s'étaient enfuis à Gitaïm où ils ont habité jusqu'à ce jour. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds, et âgé de 5 ans, lorsqu'arriva de Jisréel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit, et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Or les fils de Rimmon, de Béhéroth, Récab et Baana, se rendirent pendant la chaleur du jour à la maison d'Ishbosheth, qui était couchée, pour son repos de midi. Ils pénétrèrent jusqu'au milieu de la maison comme pour prendre du froment et ils le frappèrent au ventre. Puis Récab et Baana, son frère, se sauvèrent. Ils entrèrent donc dans la maison pendant qu'il reposait sur son lit, dans sa chambre à coucher. Ils le frappèrent et le firent mourir et lui coupèrent la tête. Ils prirent sa tête et ils marchèrent toute la nuit au travers de la plaine. Ils apportèrent la tête d'Ishbosheth à David dans Hébron et ils dirent au roi « Voici la tête d'Ishbosheth, fils de Saül, ton ennemi, qui en voulait à ta vie. L'Éternel venge aujourd'hui le roi, mon seigneur de Saül et de sa race. » David répondit à Récab et à Baana, son frère, fils de Rimmon de Béhéroth. « L'Éternel qui m'a délivré de tout péril est vivant. Celui qui est venu me dire « Voici Saül est mort » et qui croyait m'annoncer une bonne nouvelle, je l'ai fait saisir et tuer à Tsiklag pour lui donner le salaire de son message. Et quand les méchants ont assassiné un homme juste dans sa maison et sur sa couche, combien plus ne redemanderai-je pas son sang de vos mains et ne vous exterminerai-je pas de la terre ? Et David ordonna à ses gens de les tuer. Ils leur coupèrent les mains et les pieds et les pendirent au bord de l'étang d'Hébron. Ils prirent ensuite la tête d'Ishbosheth et l'enterrèrent dans le sépulcre d'Abner à Hébron. Psaume 6. Au chef des chantres, avec instrument à cordes sur la harpe à huit cordes. Psaume de David. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée, et toi, Éternel, jusque à quand ? Reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir, qui te louera dans le séjour des morts ? Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes, mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin, tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante. Ils reculent, soudain, couverts de honte. Psaume 8. Au chef des chantres, sur la guittite, psaume de David. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Psaume 9. Au chef des chantres sur Meurs pour le Fils. Psaume de David. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face, car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu châties les nations, tu détruis le méchant, tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, des ruines éternelles, des villes que tu as renversées, leur souvenir est anéanti. L'Éternel règne à jamais, il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice, il juge les peuples avec droiture. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Chantez à l'Éternel qui réside en Sion, publiez parmi les peuples ses hauts faits, car il venge le sang et se souvient des malheureux, il n'oublie pas leurs cris. Aie pitié de moi, Éternel, vois la misère où me réduisent mes ennemis. Enlève-moi des portes de la mort, afin que je publie toutes tes louanges dans les portes de la fille de Sion et que je me réjouisse de ton salut. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite, leur pied se prend au filet qu'elles ont caché. L'Éternel se montre, il fait justice, il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains. Les méchants se tournent vers le séjour des morts toutes les nations qui oublient Dieu. Car le malheureux n'est point oublié à jamais. L'espérance des misérables ne périt pas à toujours. Lève-toi, ô Éternel, que l'homme ne triomphe pas, que les nations soient jugées devant ta face. Frappe-les d'épouvante, ô Éternel, que les peuples sachent qu'ils sont des hommes. Amen. Psaume 10. Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Le méchant, dans son orgueil, poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Car le méchant se glorifie de sa convoitise et le ravisseur outrage, méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, « Il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. » Voilà toutes ses pensées. Ses voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffle contre tous ses adversaires. Il dit en son cœur, « Je ne chancelle pas, je suis pour toujours à l'abri du malheur. » Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraudes. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans des lieux écartés. Ses yeux épient le malheureux. Il est aux aguets dans sa retraite, comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Il le surprend et l'attire dans son filet. Il se courbe, il se baisse et les misérables tombent dans ses griffes. Il dit en son cœur, « Dieu oublie, il cache sa face, il ne regarde jamais. » Lève-toi, Éternel, ô Dieu, lève ta main. N'oublie pas les malheureux. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur, tu ne punis pas? Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux, c'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Brise le bras du méchant, punis ses iniquités et qu'il disparaisse à tes yeux. Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées de son pays. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel. Tu as fermé leur cœur, tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. Amen. Psaume 14. Au chef des chantres de David. L'insensé dit en son cœur, « Il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple. Ils le prennent pour nourriture, ils n'invoquent point l'Éternel. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste. Jetez l'opprobre sur l'espérance du malheureux. L'Éternel est son refuge. Oh, qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël? Quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse. Israël se réjouira. Amen. Psaume 16, hymne de David. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leurs libations de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne promettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Amen. Psaume 19. Au chef des chantres, psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements ? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. Psaume 21. Au chef des chantres, psaume de David. Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. Oh, comme ton secours le remplit d'allégresse! Tu lui as donné ce que désirait son cœur et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. Il te demandait la vie, tu la lui as donnée. Une vie longue pour toujours et à perpétuité. Sa gloire est grande à cause de ton secours. Tu places sur lui l'éclat et la magnificence. Tu le rends à jamais un objet de bénédiction. Tu le combles de joie devant ta face. Le roi se confie en l'Éternel. Et par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. Ta main trouvera tous tes ennemis, ta droite trouvera ceux qui te haïssent. Tu les rendras tels qu'une fournaise ardente le jour où tu te montreras. L'Éternel les anéantira dans sa colère et le feu les dévorera. Tu feras disparaître leur postérité de la terre et leur race du milieu des fils de l'homme. Ils ont projeté du mal contre toi, ils ont conçu de mauvais desseins. Mais ils seront impuissants. Car tu leur feras tourner le dos et avec ton arc, tu tireras sur eux. Lève-toi, Éternel, avec ta force. Nous voulons chanter, célébrer ta puissance. Amen. Maintenant, place à la méditation.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous étudierons le second livre de Samuel et plus particulièrement les quatre premiers chapitres pour que nous puissions mieux comprendre la signification de ce récit et sa mise en pratique dans nos vies. Le premier élément à prendre en considération afin que nous puissions discerner la pertinence de ce texte est de pouvoir tout simplement considérer le contexte qui l'entoure. Le premier verset du premier chapitre de notre livre, donc nous nous trouvons dans 2 Samuel, chapitre 1er au verset 1er, commence ainsi, « après ». Il commence par ce mot « après », ce qui indique que ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé dans le chapitre précédent, est important pour pouvoir comprendre le sens de tout ce qui va suivre après cet « après ». Or, nous devons nous souvenir de quelque chose d'assez essentiel, c'est que ce livre de 2 Samuel, avec ce que nous avons dans la Bible comme étant le premier livre de Samuel, est en fait une unité dans le canon hébraïque. Il n'y a en effet qu'un seul livre de Samuel dans ce canon qui englobe les deux livres que nous avons. Et donc, dans le chapitre qui précède le passage qui nous intéresse, le grand roi Saül, puissant roi d'Israël, se retrouve en grande difficulté face aux Philistins lors d'une cuisante défaite et décide de se donner la mort non sans avoir demandé à son porteur d'armes de pouvoir le tuer, plutôt que de tomber entre les mains de ces Philistins ou de ces incirconcis. Le désir de Saül était de se sacrifier pour ne pas tomber entre les mains de personnes qui n'appartenaient pas au peuple d'Israël. Ce premier verset nous décrit donc les événements qui se produisent après la mort de Saül et de ses fils. Un homme, un Amalécite, qui n'appartient pas au peuple de Dieu, décide de venir voir David avec une nouvelle bouleversante, dérangeante même, qui aura un impact profond sur lui et sur tout son entourage. Saül et ses fils ont péri. Ce qui est troublant dans le récit de cet homme, c'est qu'il affirmera à David avoir tué Saül selon le souhait de Saül, alors que le chapitre précédent, vous pourrez le lire, ne fait aucune mention de lui. 1 Samuel 31 ne nous parle pas de cet Amalécite. Il y a même une certaine contradiction, car nous ne pouvons imaginer que Saül, qui, comme 1 Samuel 31 nous le dit, considérait comme une disgrâce le fait de mourir entre les mains d'un non-juif, ait demandé à un Amalécite de lui ôter la vie. David va d'ailleurs décider de faire tuer ce messager qui osa porter la main sur loin de l'Éternel, et il va ensuite se lamenter sur la mort de Saül et de ses fils en déclarant un jeûne. Mais quel est donc le sens de ce récit? Pourquoi cet Amalécite va-t-il décider d'apporter ce message à David? Eh bien, les chapitres suivants nous apporteront sans doute des éléments de réponse pour que nous puissions mieux comprendre ce qui se passe. Le deuxième chapitre nous décrit la croissance du règne de David. David est un roi sur la maison de Juda au deuxième verset. Ensuite, il obtient la victoire face au clan de la maison de Saül, ce clan qui va être représenté par un certain Ish-Bosheth. Et au verset 17 et 31 du deuxième chapitre, nous voyons qu'il va obtenir la victoire. Au début du troisième chapitre, il nous est dit ceci: la guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. David devenait de plus en plus fort et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Il nous est dit que la guerre effectivement dura longtemps, mais qu'une fois de plus, David avait la faveur de Dieu. Le bras droit du clan adverse, Ish-Bosheth, toujours au troisième chapitre du second livre de Samuel, va décider de venir faire alliance avec David pour cesser la guerre. Et nous avons le récit de cette alliance dans 2 Samuel chapitre 3, verset 12. Mais lorsqu'il va retourner chez lui pour pouvoir annoncer la nouvelle à son chef, eh bien, il va se faire tuer par les hommes de David. Pour une histoire de vengeance, par vengeance, il va se faire tuer par ces hommes-là. Alors que David n'avait pas donné l'ordre de la mort de cet homme. Et David va donc se lamenter, encore une fois, sur la mort de cet homme. Le chapitre 4 nous parle d'une sorte de coup d'État, d'une rébellion, lorsque deux chefs de bande du clan d'Ish-Bosheth, donc nous le rappelons, c'est le clan qui était contre David, eh bien, vont décider de l'assassiner afin de pouvoir rapporter sa tête à David. Les gens du propre clan d'Ish-Bosheth vont l'assassiner pour pouvoir apporter sa tête à David. Mais David va une nouvelle fois se lamenter sur la mort de son ennemi et va faire tuer les deux chefs de bande. Il va dire quelque chose de percutant au verset 10 qui va nous aider à comprendre ce que le récit de 2 Samuel chapitre 1 à 4 veut nous dire. Au verset 10 de 2 Samuel 4, il va dire ceci: celui qui est venu me dire « Voici, Saül est mort » et qui croyait m'annoncer une bonne nouvelle, je l'ai fait saisir et tuer à Tsiklag pour lui donner le salaire de son message. Et quand des méchants ont assassiné un homme juste dans sa maison et sur sa couche, combien plus ne redemanderai-je pas son sang de vos mains et ne vous exterminerai-je pas de la terre ? C'est assez paradoxal. Trois fois, des personnes vont lui annoncer fièrement avoir provoqué la mort de ses ennemis. Et David, plutôt que de réagir avec joie et reconnaissance, va soit les maudire ou les faire tuer. La façon dont ce texte que nous venons de lire relie les événements du premier chapitre à celui-ci nous montre que David avait sans doute bien compris que l'Amalécite ainsi que les chefs de bande avaient voulu tout simplement obtenir les pommes grasses de David en tuant, véridiquement ou prétendument, dans le cas de cet Amalécite, ses ennemis. Ils avaient cherché à trouver une gloire dans cela pour pouvoir obtenir la bonne faveur de David. Seulement, David, qui avait l'habitude de ne pas faire un pas sans demander l'accord de Dieu, avait compris une chose essentielle, et cette chose que nous répétons souvent dans nos diverses affaires, mais que nous oublions également dans le domaine spirituel, c'est que la fin ne justifie pas les moyens. La fin ne justifie pas les moyens. La promesse faite à David qu'il allait devenir le roi d'Israël, qu'il allait devoir régner sur tout le peuple de Dieu, ne devait pas s'accompagner des agissements et des manigances des hommes en leur nom propre. L'enseignement et l'application moderne que nous pouvons donc tirer de ce récit, c'est que dans l'avancement du royaume de Dieu, nous ne devons pas essayer de faire des choses pour le paraître et pour s'attirer les honneurs. Nous ne devons pas rechercher à faire avancer la cause de Dieu par tous les moyens et pour notre propre intérêt avant tout. C'est très dangereux de faire cela. Nous devons réussir à développer la sagesse, l'humilité et l'intégrité de David, qui pleura sur la mort de ses ennemis et qui voulait certainement que les plans de Dieu puissent s'accomplir dans sa vie sans pour autant utiliser des raccourcis qui ne glorifient pas Dieu. Le problème, c'est que trop souvent, parce que nous voulons que les plans de Dieu s'accomplissent dans notre vie, parce que le Seigneur nous a affirmé que nous passerons d'un point A à un point B, eh bien, nous essayons de tout mettre en œuvre avec nos propres forces, avec nos capacités, avec des raccourcis que nous avons trouvés nous-mêmes pour pouvoir arriver au plus vite à ce plan B, alors que le Seigneur n'est pas intéressé alors que le Seigneur n'est pas intéressé par la vitesse à laquelle nous allons du point A au point B, mais il est intéressé par la manière dont nous nous rendons jusqu'à ce point B-là. Et le Seigneur nous demande en tout temps, en tout lieu, de conserver notre intégrité, de conserver notre désir de pouvoir observer sa loi et de ne pas prendre des raccourcis qui seraient néfastes pour la gloire de son nom. Nous ne devons pas nous comporter comme ces hommes qui n'avaient pas la crainte de l'Éternel, mais nous devons reconnaître son autorité et sa suprématie dans notre vie. En conclusion, la parole de Dieu nous dit dans le psaume 10 au verset 3, 4 et 6, « Car le méchant se glorifie de sa convoitise, et le ravisseur outrage, méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Il dit en son cœur, je ne chancelle pas, je suis pour toujours à l'abri du malheur. Que le Seigneur nous garde de penser que nous sommes tellement bons, tellement forts, que nous n'avons plus besoin de Dieu, que Dieu n'existe pas, que nous pouvons tout faire par nous-mêmes, que nous ne puissions pas avoir ces pensées-là, mais que nous puissions dire, Seigneur, donne-moi l'intégrité de David, qui a même réussi à pleurer, à se lamenter de la mort de ses ennemis, et aide-moi, Seigneur, en tout temps, en tout lieu, à conserver cette intégrité et à pouvoir te considérer avant même de pouvoir mettre des plans pour accomplir ta volonté. Que le Seigneur nous bénisse et nous aide à mettre cette leçon que nous venons d'apprendre en pratique. Amen.
Merci d'avoir partagé cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode.